19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir chers amis auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir. Et vous le savez, on est vendredi. Et vendredi, eh bien, d'abord je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui partent en week-end. Et puis on est ensemble surtout, partout dans le monde, on vous suit. Allez, au sommaire de cette émission, vous le savez, jusqu'à 20h, nous allons d'abord aller direction Trappes, où nous allons nous intéresser à une opération, à un événement de grande envergure, puisqu'il s'agit là de parler évidemment avec les acteurs locaux, d'un côté, les défenseurs, de l'autre, bref, dans une poignée de minutes à peine, vous allez tout savoir. Et on va tout vous raconter sur cet événement qui se déroule en ce moment même et qui continue ce week-end sur la ville de Trappes. Dans une poignée de secondes, on sera avec le délégué général à la médiation au défenseur des droits. Et ensuite après, avec les débatteurs influenceurs, ils sont trois regards différents, trois points de vue évidemment complètement différent aussi, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a un sujet qui a retenu notre attention. C'est cette comparaison des punaises avec l'immigration. Fâcheux. Ça mérite une clochette. On va en parler, parce que l'ARCOM a été saisi. Ça s'est passé chez Pascal Pro, sur la chaîne de CNews. On va prendre le temps, évidemment, de décrypter cette actualité. On parlera aussi d'un autre sujet, celui de la réforme du RSA. Les députés qui adoptent une nouvelle forme de sanction, et de l'autre, un sujet qui, évidemment, provoque un véritable débat. On en parlera. On parlera aussi de la France insoumise. La France insoumise, partie de l'extrême outrance. Qu'en penseront nos débatteurs influenceurs? Et puis, si on a le temps, justement, on nous dit qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui. Assure, évidemment, certaines personnalités. On en parlera. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est tout de suite, c'est maintenant, direction la ville de Trappes. C'est avec le délégué général à la médiation au défenseur des droits, monsieur Daniel Akasinski. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour, mon cher Daniel Akasinski. Justement, vous êtes en ce moment même, alors on se parle, sur la ville de Trappes. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement votre rôle, le rôle de délégué général à la médiation au défenseur des droits? En quoi consiste-t-il, mon cher Daniel Akasinski?
Eh bien, le défenseur des droits, c'est une autorité indépendante. On ne dépend pas d'un ministère, on ne dépend pas du Parlement. On est un service public gratuit, indépendant, qui aide n'importe qui pousse la porte de nos délégués, qui vient nous voir sur le stand à Trappes, à défendre ses droits. Défendre ses droits dans les relations avec les services publics, avec la CAF, avec l'assurance maladie, avec la préfecture, avec les municipalités, avec tous les services publics, mais aussi à lutter contre les discriminations, à lutter contre les manquements à la déontologie des forces de sécurité et à défendre les droits des enfants.
À défendre justement, place au droit. Ça se passe aujourd'hui et demain, hein. On est d'accord, hein, c'est une opération.
On est sur le marché des Merisiers à Trappes, où toutes les Yvelines viennent. On a eu beaucoup de monde déjà aujourd'hui, avec à chaque fois des difficultés à résoudre sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, sur les rendez-vous en préfecture, sur le logement social, toute une série de difficultés du quotidien, hein, que beaucoup de gens rencontrent, et que nos juristes professionnels et nos délégués bénévoles peuvent vous aider à résoudre par la médiation. C'est pour ça que moi je suis délégué général à la médiation, c'est-à-dire que toute une partie de l'activité, c'est essayer de résoudre par la voie amiable ces difficultés que rencontre tout un chacun lorsque on n'arrive plus à avoir d'interlocuteur, on n'arrive plus à sortir d'une situation. C'est ça qu'on essaie de résoudre.
Alors justement, Daniel Akasinski, vous, monsieur le délégué, c'est la 6e édition de Place au droit dans la ville de Trappes. Donc, en quoi consiste justement cette opération qui se déroule à Trappes, cet événement? J'ai bien compris, c'est de rencontrer les acteurs locaux, c'est de rencontrer aussi les délégués, c'est de rencontrer aussi des jurys, c'est de rencontrer, bref, les habitants. Vous avez parlé, vous, de cette place du marché, cette place aussi des Merisiers. Ouais. Que se passe-t-il? En quoi, justement, qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qui s'est déroulé aujourd'hui durant cet événement, et quel est le contenu réel évidemment de cette opération?
Alors, on a tous des droits, simplement c'est pas toujours facile de les faire valoir, de les défendre. Il y a des gens qui n'ont pas spontanément l'information sur le fait que ça existe, le défenseur des droits, qui même quand ils savent que ça existe, ne savent pas forcément où le trouver, vont pas forcément oser pousser la porte, passer le numéro de téléphone, envoyer un mail, etc. Là, c'est nous qu'allons voir les gens. On est installé avec une tente, un stand comme sur le marché, sauf que nous c'est gratuit. Et toute personne qui passe et qui a entendu parler de cette affaire peut venir avec, je redis, son dossier CAF, son dossier Sécu, son litige avec son bailleur ou son employeur pour une question de discrimination, et venir rencontrer nos délégués ou nos juristes pour qu'ils leur disent d'abord si on peut éventuellement faire quelque chose, si l'analyse qu'on a de la situation, bah, c'est que sans doute qu'il a été porté atteinte à leurs droits, que leurs droits n'ont pas été respectés et qu'on peut essayer de les résoudre. Et ensuite, ça rentre dans l'institution et on essaye de résoudre la situation. Après, même si on n'est pas compétent, on va vous apporter une information. On va vous dire dans ce cas-là, bah, vous pouvez peut-être aller voir le conciliateur de justice. Là, vous allez avoir besoin d'un avocat. Là, en fait, vous pouvez tout simplement apporter une réclamation directement à un service qui va devoir vous répondre. On fait de l'information sur les droits en étant sur la place. Parce que nous, on est à Trappes, hein, on est toute l'année, on a trois délégués qui sont des bénévoles, qui sont à la Maison de la Justice et du Droit de Trappes. On a 8 délégués sur l'ensemble des Yvelines. Et donc, les personnes peuvent venir nous contacter toute l'année. Mais là, y compris pour celles qui n'oseraient pas forcément passer la porte ou qui n'ont pas forcément l'information, bah là, on est sur le marché. Il n'y a pas besoin de pousser la porte. On est là, on a tous des cas web bleu clair. On est facile à reconnaître. Et
c'est en quelque sorte, monsieur le délégué, c'est en quelque sorte un guichet au cœur de la cité.
Exactement, exactement. C'est vraiment notre vocation. C'est ce qu'on fait une fois par an, parce que quand même, on y va, on est une trentaine hein, à venir, donc on est là pendant 2 jours. On était là aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui vous a frappé justement ? Quels sont les types de questions sur lesquelles on vous a interpellé ? Qu'est-ce qui est récurrent ? Quelles sont les choses qui vous ont interpellé ? Et quelles sont par exemple, qu'est-ce qui vous a frappé durant cette journée ?
Alors aujourd'hui, les principaux sujets que nous ont amenés les habitants de Trappes et du département, c'était de façon assez prévisible, parce qu'on en a déjà toute l'année, les difficultés à obtenir un renouvellement de titre de séjour, un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande, les délais de traitement avec la préfecture, ça c'est très important. Aussi beaucoup de questions relatives au logement social, soit des difficultés d'attribution, des difficultés à changer de logement, des difficultés pour faire aménager son logement quand on est en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Vous savez, vous changez la baignoire en douche, des choses comme ça. Et puis aussi beaucoup de difficultés pour la scolarisation des enfants qui sont en situation de handicap. Soit qu'ils n'ont pas d'accompagnement, soit qu'ils n'ont pas vraiment assez d'heures à l'école, soit qu'ils n'ont pas de place dans un institut médico-éducatif. Voilà, si je devais dégager 3 grands thèmes d'aujourd'hui, il y en a eu beaucoup d'autres sur l'état civil, plein de matières différentes, mais si je devais dégager les 3 principales de la journée qu'on a passée sur le centre, ce serait ça.
Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur le délégué général, que finalement les habitants méconnaissent d'ailleurs leurs droits ?
Bien sûr, on ne connaît jamais assez ses droits. Il faut toujours les connaître davantage. Mais même quand on les connaît, il faut savoir quelle porte pousser pour les faire valoir. Et c'est ça qu'on veut rendre plus connu de tous les habitants de France, des Yvelines et de Trappes en particulier. C'est qu'il y a une porte qui est celle des délégués du défenseur des droits. Vous avez quelqu'un qui vous accueille pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, qui va vous écouter déjà simplement, expliquer la difficulté que vous rencontrez et vous dire, là je peux intervenir, là je peux pas, faut aller là, etc. Mais retrouver cette écoute qui est le point de départ pour faire valoir ses droits. Parce que vous pouvez avoir toute l'information, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui vous écoute, ça ne va pas faire démarrer la machine.
Daniel Akasaski, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une barrière, un fossé qui se creuse entre à la fois les habitants d'un côté et l'administration de l'autre ?
Je ne sais pas s'il se creuse, mais il y est ce fossé, il n'y a pas de doute. On l'a beaucoup dit chez le défenseur des droits avec le tout numérique. Quand vous avez des démarches qui sont uniquement par voie numérique pour prendre des rendez-vous à la préfecture, je reprends cet exemple, pour avoir une subvention pour changer vos fenêtres ou votre chaudière, pour effectuer tout un tas de démarches, quand vous n'avez pas d'autre choix que le numérique, alors que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cet outil de communication, et que même si vous êtes à l'aise, un jour il y a un blocage qui fait que vous avez besoin d'avoir quelqu'un en face, les administrations ont trop fait reculer leur présence physique et leur capacité à entendre les gens, à les accueillir. Et c'est ce qui fait que nous, on a un nombre de réclamations qui augmente chaque année. C'est que nous, on accueille de façon humaine, on est bénévole, on a une action de proximité et qui résout pas tous les problèmes, mais qui peut en résoudre un certain nombre. Et ce qui est frappant, c'est le besoin d'écoute qui est le point de départ du droit. Le droit, c'est pas automatique. Le droit, il faut des personnes pour le faire valoir, il faut des personnes pour le faire respecter, il faut des personnes pour l'appliquer. Et c'est ça que nous, on rappelle aussi avec cette opération de présence sur le terrain.
Justement, l'une de mes dernières questions. Demain, que va-t-il se passer ? Quel est le déroulé de la journée de demain de l'opération Place au droit ?
Ben, c'est la même chose, c'est qu'on est au stand. On a un stand sur la place de 9h du matin à 16h. On est là, on accueille toutes les personnes qui veulent venir, on a des délégués, des juristes, et on a le temps qu'il faut pour démêler votre situation. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous en ligne, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est gratuit, et il suffit de venir avec des papiers si vous en avez pour exposer votre situation, parce que c'est ce qui va permettre d'enclencher l'action derrière.
Toujours place de Merisier, hein.
toujours place des Merisiers, mais devant la poste en fait, entre la poste et le carrefour, mais vraiment juste devant la poste. On a un stand, on est une vingtaine. Il va sans doute y avoir du monde parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus hier, enfin aujourd'hui, qui avaient entendu parler de l'opération mais qui n'ont pas forcément tous les papiers, qui ont dit ah oui je reviens avec les papiers. Donc il y aura du monde, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais vraiment, si vous pensez que vous avez une situation à démêler avec un service public ou un problème de discrimination, le droit de l'enfant, n'hésitez pas à venir à la place. En plus il y a le marché à côté, donc voilà. Et on sera là pour vous accueillir.
Et ça s'intitule Place au droit. Ça se déroule à Trappes aujourd'hui et demain. Place de Merisier. On a des élus, on a aussi des acteurs associatifs, notamment Nadir Kaya qui est le président de Banlieue Plus. Vous souhaitez échanger avec vous. Nadir Kaya.
Oui, bonjour monsieur.
Monsieur le délégué général des défenseurs des droits.
Très bien, bonjour à vous. Non, je voulais juste réagir en disant que c'était une action très intéressante et à la hauteur des attentes des uns et des autres. Je pense que, comme vous le disiez, vous avez dû vous en rendre compte à travers les personnes qui sont venues vous voir. Malheureusement, je pense qu'il faudrait faire ça plus régulièrement, quitte à faire ça même tous les jours, parce que quand on voit un petit peu la difficulté que certains ont d'un point de vue administratif ou simplement pour connaître leurs droits et notamment se défendre correctement face à la justice, face à l'administration ou face à un employeur ou éventuellement dès lors où on fait des démarches administratives, je pense que c'est très bien parce qu'on a déshumanisé un petit peu la société. Aujourd'hui, tout se fait principalement sur Internet ou même à travers le téléphone. Donc quelque part,
très court.
On perd ça, mais l'initiative est très intéressante. Je pense que simplement, il faudrait peut-être la.
Alors, qu'est-ce que vous répondez, mon cher,
plus régulièrement?
Qu'est-ce que vous répondez, mon cher Daniel Agazeski? Parce que effectivement, de façon récurrente.
Nous, on adorerait le faire tous les jours. On adorerait le faire tous les jours. Mais effectivement, on a des agents au siège des délégués qui sont dans tous les départements, qui sont là tout le temps. Alors à Trappes, vous avez de la chance, vous avez la maison de la justice et du droit, qui elle est ouverte tous les jours. Et donc on n'a pas la force d'être tous les jours sur la place, mais à partir du moment où on est au moins là deux jours sur la place, on peut commencer à être connu, à être identifié, et à ensuite faire en sorte que chacun puisse trouver le chemin du défenseur des droits. C'est gratuit par téléphone, c'est gratuit sur Internet. Les permanences des délégués sont gratuites aussi et on est là toutes les semaines à Trappes. Donc, moi, j'adorerais qu'on le fasse tous les jours dans toutes les villes. Honnêtement, avec tout l'effort qu'on puisse faire, on n'y arrivera pas. Mais je vous rejoins. Il faut de la présence et il faut de la proximité pour que chacun puisse accéder à ses droits. Donc.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent partout en France? Justement, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, justement, quand on pense à cet événement, cette opération qui s'intitule Place aux droits?
Ne lâchez jamais vos droits, faites-les toujours respecter, trouvez les chemins du droit, parce qu'il y a plein de gens partout, dans tous les territoires de France, qui sont prêts à vous aider pour faire valoir vos droits. Bien sûr, les délégués du défenseur des droits, mais aussi les conciliateurs de justice, les espaces France Service, les maisons de la justice et du droit. Il y a tout un réseau d'acteurs qui sont ultra engagés, ultra mobilisés sur le terrain pour faire valoir les droits de tout le monde, même si c'est difficile, même si le contact avec l'administration est compliqué. Il faut vraiment que toutes les bonnes volontés se rassemblent et que personne ne baisse les bras. Absolument. Parce que c'est un combat trop important.
Vous avez raison, Daniel Akinsinski. Merci d'avoir été avec nous dans les informés en direct de la ville de Trappes, place de Merisier. Vous êtes délégué général à la médiation au défenseur des droits. Merci, monsieur le délégué général, et bon courage pour demain.
Merci, bonne soirée à vous.
Merci. Tout de suite, vous savez quoi, je présente nos débatteurs influenceurs avant de retrouver et de marquer une pause. Nadir Kaya, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour à
le
tous.
Le président de Banlieue Plus. L'élu de Creil, elle est avec nous. Jessica Longuer, bonjour.
Bonjour.
Le conseiller régional, il est avec nous. Philippe Nadji-Boriaki, bonjour.
Bonjour.
On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. On va parler des punaises et de l'immigration. Je vois pas trop le lien, mais bon, on va en parler. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, vous le savez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Avec Philippe Boriaki, le conseiller régional, avec le président de Banlieue Plus, Nadir Kaya, et enfin avec la conseillère, l'élu local de la ville de Creil, qui est avec nous, Jessica Elonguer. D'abord, on va parler de ce sujet, Pascal Pro, qui a suscité de nouveau, vous savez quoi, eh bien une polémique, notamment des personnalités politiques hein, de LFI, ont saisi l'ARCOM, vous savez, c'est celle qui régule les médias. Eh bien, sachez que Pascal Pro fait un lien entre la punaise de lit, mais le sujet de l'immigration. Écoutons son propos, ça se passait sur CNews.
Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils se... Peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres. Est-ce que c'est lié à cela ?
Absolument pas.
Je salue. Alors, il y a Florian Guadeloupe.
Allez, on reprend l'antenne parce que justement, c'était un extrait. Qui veut prendre la parole ? Qui ? Allez, on commence par Jessica Longuet. Allez-y.
Ok. Déjà, je suis très peiné de ce genre de propos. Et en plus, c'est des propos qui sont totalement ridicules. Au lieu de poser la question à l'envers, puisqu'il parle d'immigration, il parle aussi d'hygiène, la question c'est pourquoi on met pas de moyens dans l'hygiène, pour assainir une ville, pour trouver un toit aux personnes qui vivent dehors, pour les accompagner, pour qu'il y ait un minima, une forme de dignité humaine. Donc à un moment, je suis désolé, on peut pas associer l'immigration aux punaises de lit, ça n'a rien à voir. Totalement.
Totalement. Nadir Kaya.
Pour connaître un tout petit peu CNews et Pascal Pro, pour avoir été invité à quelques émissions, je suis pas surpris parce que quand on regarde un peu Pascal Pro et les différentes émissions qu'on trouve sur CNews, il parle exclusivement de l'immigration des banlieues. Donc je pense que la chose lui est venue naturellement. Donc il a cherché à faire un lien et puis on le voit très bien, il est un petit peu embarrassé parce qu'on voit qu'il essaie de construire sa question, mais voilà. Et donc ce qui est surprenant pour une personne comme lui, c'est de faire le lien. Je dirais pas que c'est une personne très intelligente, c'est un journaliste, mais aujourd'hui d'en arriver à ça, c'est quelque part les Français s'habituent à ça. Ça fait le buzz, certes, ça va faire peut-être le buzz jusqu'à aujourd'hui. Lundi, on repassera à autre chose parce que le week-end est là et il y aura sûrement des événements d'ici là. Mais ce qui est déplorable, c'est continuellement de s'en prendre à l'immigration ou de faire croire aux Français que l'immigration est responsable de tout, au point de faire le lien avec les punaises de lit.
Bah c'est ça, c'est sachez-le que. Évidemment, l'ARCOM a été saisi. Hein.
Et c'est plutôt la question qu'il faudrait se poser, l'état des habitations en France, et notamment peut-être dans les quartiers ou les villes populaires, où vous avez des bailleurs qui ne font pas leur travail, où vous avez... on a vu des images dans le métro, à la SNCF, je crois qu'il y a des entreprises qui ont fermé cet été aussi pour faire des désinfections par rapport à ce problème-là, donc je ne pense pas que ce soit le problème de l'immigration, mais plutôt un problème de santé publique.
De santé publique. D'ailleurs, le parallèle, hein, effectivement, le parallèle entre les punaises de lit et l'immigration. Bon, Philippe Nadjiboyaki.
On est dans l'excès et dans celui qui ira toujours le plus loin. Il y a une chose qui est claire. C'est vrai que les populations les plus fragiles, c'est celles qui se soignent le moins. Donc, s'il y avait une épidémie de gale, etc., effectivement, on pourrait faire le parallèle avec des gens qui sont dehors, qui ne sont pas soignés et qu'il faudrait d'abord leur apporter le soin. Maintenant, les punaises de lit, il y en a toujours eu en France depuis la nuit des temps, et c'est quelque chose qui est transposable. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez quelqu'un, ne pas voir qu'il a des punaises, une vient sur vous, vous l'emmenez chez vous, et ainsi de suite, vous contaminez. Donc, mais ça, et on le voit, et Nadir l'a dit, souvent dans les endroits insalubres, chez les marchands de sommeil, ou les bailleurs qui n'ont pas fait leur travail, je voudrais rappeler en tout cas celles et ceux qui sont dans des OP HLM, leur rappeler que l'opérateur HLM a une obligation de désinfecter, dératiser, lorsqu'il y a des cafards, pareil, il doit faire intervenir les entreprises dans les parties communes ou dans les parties privatives.
Ou des souris.
Ou des souris, bien sûr.
Oui.
À sa charge. À la charge du bailleur. Donc, si les bailleurs font leur boulot, ils répondent en tout cas à régler une problématique. Mais allons encore plus loin. Les températures qui sont excessives en cette période continuent à nous ramener des moustiques-tigres. Donc, mettons ça aussi sur le dos de l'immigration. On peut tout mettre sur le dos de l'immigration. Donc, quand on n'a malheureusement pas de faits divers et sur lesquels on tape de manière assez violente sur certains médias, eh ben, on va jusqu'à extrapoler certains fantasmes. Moi, j'ai fait un tweet, moi, hier, il me semble, et j'ai interpellé Zemmour et Damien Rieu et Jean Messia. Où il y avait un influenceur qui disait moi je vis aux États-Unis et je touche comment s'appelle le RSA etc et ils s'en vantaient et d'ailleurs il y avait Monsieur Pratt un ancien magistrat qui disait comme quoi l'arnaque et la malhonnêteté n'avaient pas de couleur de peau parce que peu de temps avant c'était un type qui était dans un pays étranger et tous les deux mots il disait le mot Wallah donc ça faisait un rapprochement franco-marocain et donc du coup J'ai vu, moi, sur les sites de la fachosphère, plein de haine se répandre en disant, vous voyez, ils viennent pour dépouiller nos allocations. Mais là, pas un seul tweet de la fachosphère sur ce bon français bien blanc aux États-Unis qui dit, voilà, moi, comment j'arnaque le système. Donc, ça serait bien qu'ils changent de registre parce qu'à la fin, ils n'auront plus rien dans leur besace.
En fin d'émission, Pascal Praud est revenu sur ses précédents propos, répondant à la polémique émergente et rassurant qu'il parlait des touristes. Parfois, dans les aéroports, il peut se passer des choses avec beaucoup de touristes.
Il parle d'immigration, il ne parle pas de touristes, là.
Qui peuvent transporter des punaises de lit, mais propos n'allaient pas au-delà.
Ah oui ? D'accord.
Bon.
Je rappellerai en tout cas à M. Pascal Praud qu'au moment de la colonisation, ce sont les colons européens qui ont ramené la gale, le typhus dans plein de pays qui ont été colonisés. Donc, la peste, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était dans les couvertures qu'on donnait aux tribus aborigènes ou indiennes qu'on a contaminé ces gens-là et qu'on leur a ramené... des choses pas très sympas.
Alors justement, vous parliez du RSA tout à l'heure. Et bon, on va en parler du RSA justement parce qu'il y a un sujet qui provoque un grand débat là pour le coup. Lors de l'examen du projet de loi plein emploi, donc les députés, et bien justement, ont adopté un tout nouveau principe de suspension des droits au RSA en cas de manquement. La gauche dénonce une honte réforme du RSA. Bientôt 15 heures d'activité obligatoire pour le toucher. Jessica Longuerre, tu veux le toucher ? 15 heures d'activité. Quel long silence.
Ah, pardon. Non, mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus vis-à-vis du manquement, en fait, je suis assez mitigée. C'est qu'est-ce qu'on appelle un manquement ? Est-ce que c'est un manquement de déclarer les ressources ou est-ce que c'est un manquement, un tout petit détail ?
Moi, je refuse. En tout cas, la gauche dénonce une honte.
Je refuse de toute façon qu'on utilise, enfin, on propose des solutions qui cherchent toujours à taper sur les plus précaires, sur les plus pauvres et des personnes qui déjà. Alors, si je ne me trompe pas, le RSA, c'est 500 euros, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est rien du tout. On ne vit même pas avec un RSA. Donc, si on le coupe, je ne sais pas ce qu'on veut chercher. Je sais, les queues sont super longues devant le Secours Populaire, les queues sont longues devant le Resto du Cœur. Je ne sais pas, si ce n'est que tirer sur créer de l'attention auprès des associations et autres. Donc vraiment, je suis désolée. Proposer des procédures qui ne font que restreindre et créer encore plus de tensions, je ne suis pas fan.
Nadir Kaya.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. Je pense que la France va mal pour tout un tas de raisons. Mais quand on voit un peu l'état de nos politiques aujourd'hui qui sont incapables de résoudre les vrais problèmes et de surfer simplement sur des histoires de RSA, donc de rajouter des conditions d'obtention du RSA, c'est pas entendable, c'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Hein. Donc que la France ait des difficultés, moi je rappellerai que simplement la France aussi n'a jamais produit autant de richesses. Et paradoxalement, il y a plus de 10 millions de Français qui sont pauvres aujourd'hui. Donc la raison, elle est très simple. Hein. C'est pas le fait de vouloir taper sur les plus pauvres.
Mais comme
c'est
dit Jessica Langa, c'est-à-dire que déjà dans les quartiers populaires, ils ont du mal. 500 à compte, c'est que dalle, c'est vrai. Hein, ça...
Mais c'est pas que dans les quartiers populaires. Vous avez dans les campagnes aussi, vous avez des gens qui touchent le RSA. Vous avez beaucoup de paysans qui se suicident aussi parce qu'ils n'y arrivent plus. Il faut pas opposer les Français. Il faut simplement chercher à être lucide et avoir du bon sens. Mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui parce que tout va très vite et on cherche pas à ce qu'on puisse réfléchir les uns les autres, on veut faire du buzz et à savoir si on est pour ou contre un sujet bidon. Aujourd'hui, c'est que malheureusement on a des politiques qui sont en responsabilité et qui sont, quand on regarde bien la Constitution, là je la relisais parce que je pense que la Constitution, il faut la relire souvent en fin de compte pour comprendre un peu ce que pouvaient penser les pères de la Constitution à l'époque. Il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot bonheur. En fin de compte, un politique, quand il est censé faire de la politique, il est censé donner du bonheur aux Français. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. On est plutôt dans la peur, dans la crainte, dans l'opposition, dans la division. Et comme le disait précédemment le monsieur qui est du côté de Trappe, il faut de l'humain. Et l'humain, il faut avoir aussi connaître ses droits. Et quand on connaît ses droits, en général, ben on se fait moins avoir par les gens qui ont le pouvoir et qui essayent de noyer le poisson dans la situation dans laquelle on est.
C'est ce que disait le
Défenseur
général des droits.
Oui, c'est important, les droits. Moi, le premier, je ne connais pas grand-chose en termes de droits, mais je pense que je suis comme la plupart des Français, preuve en est. Si les politiques aujourd'hui buzzent sur des petites phrases comme ça ou des sujets comme ça, c'est qu'ils savent notre méconnaissance. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire croire aux Français qu'ils vont résoudre les problèmes en tapant sur les plaies les précaires et en faisant croire que ces gens-là sont les responsables de la situation de la France. Non, les premiers responsables de la situation de la France, ce sont nos gouvernants.
Les informés des quartiers, c'est on revient tout de suite dans une poignée de minutes, justement, 19h31. On marque une pause et on se retrouve avec notamment le commentaire et le point de vue de Philippe Nadji-Bouriaki. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Si vous souhaitez évidemment réagir aux propos concernant donc la réforme du RSA, vous pouvez bien sûr, 01 53 48 3000, je vous attends, le standard est ouvert.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Jessica Longuer, Nadir Kaya et enfin Philippe Nadjiboye qui joue le standard. C'est parti, les auditeurs ont la parole. 01 53 48 3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Nous vous donnons la parole justement sur la thématique de la réforme du RSA. Qu'en pensez-vous quant à la gauche qui crie à la honte, mais les députés adoptent bien une nouvelle forme de sanction. Eh bien, qu'en pensez-vous, chers amis? Philippe Nadji-Bouriaki, qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement?
Ben, en France, on a des droits, mais on a aussi des devoirs.
Je savais que vous alliez mettre les pieds dans le
plat. Non, mais il faut regarder les choses de manière factuelle. Est-ce que ces 15 heures, dans ces 15 heures, il y a des formations qui peuvent remettre les gens à l'emploi de proximité ou à une formation pour acquérir des niveaux supérieurs pour pouvoir retrouver de l'emploi? Parce que l'emploi, c'est la dignité. Vous savez, quand vous restez à rien faire du matin au soir, à un moment donné, vous vous cognez la tête sur les murs. Oui. Je suis pas en train de stigmatiser disant que tous ceux et toutes celles qui touchent le RSA sont des feignants et qui profitent du système. Mais quand vous êtes au RSA, vous avez souvent les appels
Merci
qui vont
préciser,
avec,
oui.
etc. Non, mais évidemment. Mais il y en a aussi à l'intérieur. Et ça, on peut pas l'exclure. Moi, quand je vois cet influenceur aux États-Unis qui est doré au soleil, qui dit mais c'est grâce à vous, grâce au collectif, à tous celles et ceux qui travaillent. Et donc là, il y a un écart qu'il faut réellement réduire. C'est pas déconnant de dire à une personne pendant 2 heures par semaine ou 3 heures sur 5 jours à traverser les écoles, à ramasser les papiers en bas de chez toi. Bien sûr, il faut pas que ça vienne en substitution sur des employeurs pour prendre des emplois qui coûte rien aux employeurs et qui finit par augmenter ses marges et donc créer la pénibilité et de la charge à la société. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse permettre aux gens de se réinsérer, de reprendre goût à une vie sociale, d'avoir des collègues, d'avoir d'autres choix, de ne pas rester à se cogner la tête contre les murs du matin au soir, pouvoir permettre par exemple de débroussailler en forêt, tu vois des choses où par exemple faire de l'accueil ou de l'assistance aux personnes qui sont isolées, leur faire de la lecture, leur
Est-ce
faire
que vous
leur
êtes pas en train de nous dire tout simplement, Philippe Nbouriaki, stop à l'assistanat?
Tout à fait,
c'est comme ça que je l'entends, moi.
Ah, mais
c'est
complètement. Non, ouais. non, pas l'assistanat. L'aide à la reprise de confiance en soi, l'aide à la reprise à la sociabilité, parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir inutile et se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts? J'arrive à un certain âge, on préfère prendre un minot qui est sous-qualifié parce qu'on va le sous-payer. Et donc, ces gens-là finissent par déprimer, broyer que du noir et favoriser le vote des extrêmes. Donc, ces gens-là, ils vont pouvoir retrouver une certaine dignité et puis retrouver évidemment du travail.
Moi, je suis pas d'accord. Il y a déjà des critères pour le RSA. Ouais. Il faut déjà rester sur ces critères-là. Ça suffit. Rajouter un autre critère pour donner moins, c'est pas acceptable. Bah, qu'on aille voir les privilèges de ceux qui nous gouvernent et de commencer à rééquilibrer les choses-là. Et après, on pourra parler du RSA. Ces gens-là, ils sont en grande difficulté. La plupart de ces gens-là, je pense, c'est des gens qui aspirent à travailler. Il y a aussi des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, qui ne pourront jamais travailler,
bien sûr,
malheureusement.
Il faut le voir au cas par cas.
Oui, au cas par cas. Donc, il faut pas rentrer dans cette logique de dire oui, on va donner une nouvelle mesure et puis si ces gens
Est-ce que d'un côté, il faut monter les uns contre les autres, comme vous dites, ouais, dans ce cas-là, alors,
non,
si ça marche
pas,
comme ça,
fera,
il faut aller voir.
Malheureusement,
les...
on le fera naturellement, ouais. parce que voilà,
parce
si
que
moi
c'est
j'aborde.
Ce que vous avez laissé entendre, vous dites, bah, c'est comme ça,
moi,
bah,
j'entends ce que
voir,
Philippe dit, mais si moi je rentre sur le prisme
qui
des privilèges,
du système,
des
c'est
privilèges,
voilà, c'est ce que vous dites.
On peut dire ça d'un côté, donc c'est quelque part, c'est chercher l'équilibre, mais aujourd'hui, le gouvernement ne le cherche pas, on le sait très bien. Quand on voit la situation des Français aujourd'hui, il y a des millions de postes qui ne sont pas pourvus, pourquoi? On dit, oui, mais il faut les donner aux Français. Mais les Français, je suis désolé, ne les veulent pas, c'est des boulots, c'est des sales boulots, que ce soit dans le BTP, dans la restauration, où on dit qu'il y a des milliers d'emplois qui sont en attente.
Monsieur.
Déjà, la plupart de ces postes-là sont occupés par des gens qui sont issus de l'immigration. Voilà. Légal comme illégal. Oui. Ça, on ne le dit pas, on ne le dit pas suffisamment. Là. Donc, la plupart des gens qui font des sales boulots en France, ce sont des gens issus de l'immigration. Et donc, c'est-à-dire, même illégalement. Surtout dans le domaine de la restauration.
Et ensuite, Jessica Longuer.
À un moment donné, s'il y a de l'argent à aller chercher, il faut aller chercher là où il y a beaucoup d'argent.
Il faut le chercher partout. Partout. Il ne faut rien désigner. Il n'y a aucun pays au monde. possible. Il y a aucun pays.
On commence surtout sur ceux qui ont beaucoup d'argent.
Il n'y a aucun pays au monde, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont peut-être aussi beaucoup travaillé pour ça. Et donc, on peut pas être dans un système ultra communiste ou dire et stigmatiser tous ceux qui ont de l'argent. Sinon, ils vont tous se barrer et on n'aura plus d'insouris, on n'aura plus rien en France.
J'ai pas de souci là-dessus. Il faut simplement.
Moi, je dis que ceux qui ont beaucoup d'argent doivent payer beaucoup d'impôts. C'est l'effort et la contribution de la solidarité nationale. Mais il n'y a aucun pays au monde qui vous donne 550 euros par mois. Et c'est pas assez pour vivre, mais on sait très bien que derrière il y a les APL, il y a l'aide pour les enfants en bas âge. Enfin bref, vous payez moins cher quasiment pas la cantine, la garderie, etc. Moi je suis en train de penser à tous ceux qui se lèvent le matin pour travailler.
Oui, ça c'est pas gratuit, Philippe. Je te rappelle qu'on le paye tous avec nos impôts. Hein.
Non, on le paye avec nos impôts, mais ceux qui sont RSA ne payent pas d'impôts. Donc c'est ceux qui travaillent à qui on demande de faire un effort considérable et qui se disent
c'est l'esprit français, ça a toujours été comme ça.
Ce que je veux dire par là, le système généreux de la France fait qu'à un moment donné, il faut aussi être citoyen français et se dire qu'est-ce que je peux faire pour mes compatriotes, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le quotidien. Et je suis désolé, si tu sais que ta maman, quand t'es un gamin, que soit en banlieue ou en ruralité, et que des fois tu oublies de ramasser le papier que t'as acheté par terre, si tu sais que c'est ta mère ou la mère de ton copain qui va le ramasser après, crois-moi que rapidement il y aura plus de papier qui traînera par terre. Moi je suis désolé, quand je vois l'état des routes et des rues de notre pays, j'ai un petit peu honte et je me sens pas bien. Donc l'État et la collectivité et la générosité nationale t'aident, il faut qu'on retourne, que tu fasses de la surveillance de rue ou de l'accompagnement dans les transports en commun. Ce que je veux dire, c'est être un citoyen à part entière, mais que ça soit pas conditionné à supprimer les emplois de notre côté.
Jessica Elanga est en train de dire Nadir Kaya.
J'aimerais juste rebondir sur ce que Philippe dit, parce que c'est quand même intéressant. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait que le travail, c'est de la dignité, mais ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas comme on l'entend dans notre société, qu'il n'y a pas de travail. Je prends l'exemple, quand j'étais étudiante, j'ai été très engagée associativement. Je peux même compter le nombre de personnes que j'ai aidées, le nombre de caddies que j'ai soulevées, de femmes âgées qui ne pouvaient pas monter les escaliers, le nombre de personnes que j'ai aidées administrativement, parce que oui, il y a des personnes âgées qui ne savent même pas utiliser d'iPhone, mais qui ont des iPhones. Alors, je me souviens d'ailleurs, donc, toutes ces choses que j'ai faites, on ne peut pas les comptabiliser aujourd'hui. Et on va même dans les campagnes, on a des familles où les enfants vont aider papa, maman dans la campagne à ramasser, ça ne sera jamais comptabilisé et ça fait partie du jeu. Je prends aussi dans les banlieues, beaucoup sont à leur compte, papa est boulanger, papa est livreur, etc. Et l'enfant, il monte dans le camion. Moi, j'ai fait partie de ces enfants, j'étais dans le camion dès la primaire. On ne les comptabilisera jamais. Et donc ça, c'est une autre réalité. Donc ce n'est pas parce qu'on travaille, on n'a pas de contrat de travail, que le travail n'existe pas. C'était juste la petite nuance. Sinon, je suis totalement d'accord aussi sur le fait que il faut réinsérer ces personnes, parce que en effet, quand on est sorti du circuit, c'est difficile. On le voit, on a peut-être honte aussi. J'ai été chargée de recrutement. Je sais ce que c'est de faire un entretien, de passer un entretien, le stress qu'il y a, ou les années qu'on a fait sans travail, on se dit, ben non, ça sera pas assez, etc. Et comment je vais gérer la maison, etc. Et ça, je suis totalement d'accord. Donc, je pense qu'il faut mettre aussi de la nuance, parce que l'être humain, c'est une personne nuancée. Et je suis d'accord avec vous deux, hein, honnêtement. Mais
ça, c'est de la nuance.
Voilà.
C'est de la nuance, effectivement.
Non, moi, je voulais rajouter.
Allez-y. Justement, c'est un
après,
sujet important.
On n'est pas là pour
0153 48 3000 si vous souhaitez intervenir.
Nos concitoyens, chacun s'éduque comme il pense être bien pour lui et sa famille. Le souci aussi, c'est qu'en France, on a un vrai problème. Je suis pas de gauche, je suis une droite. J'essaie d'avoir une opinion assez équilibrée, même si ça peut paraître un peu difficile. Mais aujourd'hui, ce qui manque aux Français, au-delà de chercher des solutions pour trouver de l'argent, pour rééquilibrer un petit peu le budget de façon générale et que chacun vive mieux, c'est aussi l'exemplarité de nos élites. On est le pays en Europe où nos élites sont le plus condamné. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Donc, à un moment donné, quand tu demandes aux Français de faire des efforts et que toi-même, tu n'es pas capable de le faire, ça suffit. On a connu ça déjà avec François Hollande, avec Sarkozy, Chirac aussi. Donc, à un moment donné, ça commence par là-haut. Donc, tant que là-haut, ils ne sont pas capables d'être exemplaires et d'être dignes, d'être honnêtes avec les Français,
ils ne viennent pas nous donner de leçons. En gros, soyez exemplaires et évidemment...
Soyez exemplaires, mais le pire, exemplaires aussi dans la gestion des comptes publics. Je rappelle, comme on l'a dit, ce sont nos impôts, notre argent. Donc normalement, comme on le disait en termes de droit, ces gens-là nous doivent une comptabilité transparente, honnête, et qui soit à la hauteur des aspirations des uns et des autres. Donc quand on voit aujourd'hui qu'on vient voir les gens qui sont RSA, leur demander d'avoir un petit plus sur leur situation pour aspirer au RSA, c'est pas possible. Le RSA, c'est de la solidarité pure avec les personnes en vraie difficulté.
Allez, on va traiter ce dernier sujet dans les informés des quartiers, justement. gouvernement. 70% des Français souhaitent un référendum sur l'immigration. Alors, vous savez, c'est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui était l'invité donc d'une chaîne de radio, Europe 1, CNews, qui a fait part d'une inquiétude concernant ce fameux sondage qui a été révélé par CNews. 70% des Français, je vous le disais, pour un référendum sur l'immigration, mais surtout, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui, assure le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Que faut-il comprendre ? Franchement, Philippe Nadji Bouriaki.
Il n'y a jamais eu autant d'émigrés.
Et surtout les Français, 70% des Français souhaitent un référendum sur l'immigration.
D'accord, mais il y a quoi dans ce référendum ? C'est quoi ? Est-ce qu'on accueille encore des émigrés ? Est-ce que c'est un quota ? Est-ce que c'est des émigrations choisies ? Est-ce que c'est porte ouverte à tout le monde ?
Moi, que les Français, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les Français décident de qui peut entrer ou non en France.
D'accord. Alors, je voudrais juste rappeler quand même qu'hier, il y a un signal d'alarme qui a été envoyé depuis tout là-haut, depuis l'Élysée, et qui est redescendu en cascade, c'est que le taux de nativité en France n'a jamais été aussi bas.
700 000.
C'est un truc de fou. C'est-à-dire que
on a atteint le niveau le plus bas historiquement.
Oui, tout à fait. Dans quelques temps, on aura plus de décès que de naissances. Alors, je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui veulent avoir leur retraite, c'est qu'il nous faut des enfants. Parce que c'est les enfants qui vont payer notre retraite, puisque c'est par la répartition.
Il y a un économiste qui te dit, tu peux dire ça tous les jours pendant je ne sais pas combien de jours. La réalité, c'est que la France a besoin d'immigration. On n'est pas au même niveau que l'Allemagne, mais l'Allemagne est pire que nous. Sa population est de plus en plus vieillissante. Et eux vont faire appel à de l'immigration. C'est pour ça qu'ils ouvrent les portes depuis quelques années, contrairement à ce qu'on dit.
Complètement. Tu rejoins quand même mon propos, dans le sens, à tous celles et tous ceux qui pensent qu'on a trop d'immigration, il va falloir en avoir beaucoup plus si on veut pouvoir toucher une retraite décente, à moins que vous voulez que la retraite vous la touchez à 50% ou à 45%. Bon, après, c'est un choix. Mais dans ce référendum, c'est ça qu'il faut mettre aussi sur la table. Si vous mettez juste une partie de l'équation...
Vous êtes en train de dire que la France manque de main-d'œuvre.
Manque de main-d'œuvre.
Et va manquer de main-d'œuvre.
Et elle va surtout manquer d'enfants. Donc,
c'est deux sujets différents, mais bon.
Si, parce que
c'est l'avenir, mais c'est aussi nos retraites.
Et donc actuellement, c'est soit on aide à faire un taux de natalité important, c'est-à-dire vous allez toucher une prime et que ça ne va rien vous coûter des enfants.
En gros, faites des bébés.
Pourquoi pas ? Mais c'est ça.
Lancez-vous.
Ou faites des bébés, ou faites venir des immigrés. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une équation qui est imparable dans 20 ans.
Jessica Langlaire, je vous donne la parole, Nadia.
Non, je suis d'accord avec le discours de Philippe qui dit que de toute façon, on vit dans un pays avec une population qui est vieillissante, qu'il n'y a pas assez d'enfants du coup pour compenser le salaire qui doit, les pensions qui doivent être données aux personnes retraitées, et donc par conséquent ouvrir les frontières, proposer des emplois, des personnes qui en cherchent et qui veulent sortir d'une situation compliquée. Moi, je trouve ça légitime et même normal. Par contre, le fantasme qui est autour du fait que nous sommes envahis, il y a trop d'immigrés. Je suis désolé, mais à un moment, il va falloir regarder les choses en face. Et donc, si on veut regarder les choses en face, c'est que on a des emplois qui sont aujourd'hui qui ne sont pas pourvus, et il y a des personnes qui souhaitent travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah, justement, Nadir Kaya, je vous donne la parole. Et vous avez raison, Nadir Kaya, c'est le taux de la natalité en France, hein, elle poursuit sa dégringolade. Je vous donne les chiffres. Hein. 2022, près de 726 000 bébés sont nés sur le territoire français. Cela représente 16 000 naissances de moins qu'en 2021. Ça veut dire une baisse de 2,2%.
Mais on était
plus bas. On est au plus bas.
Mais il y a quelques années, on était parmi les trois premiers pays européens. Hein. Ouais. Donc là, il y a un vrai problème.
Et je vous le dis encore, la chute, hein, il y a encore, évidemment, le nombre de naissances en France chute encore au premier semestre 2023. Donc je confirme évidemment ce que vous venez de nous dire.
Non, et puis ça ne peut que chuter. Quand vous ne donnez pas d'espoir aux gens, comment voulez-vous que ces gens arrivent à se projeter dans un avenir, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants? La plupart des gens sont conscients que ça nécessite de l'argent.
Donc non, mais ça soulève quoi? Ça veut dire qu'il y a une inquiétude, l'avenir. C'est surtout ça qui. Oui, mais c'est ça qui se pose. S'il n'y a pas assez d'enfants, c'est qu'il y a une inquiétude. C'est qu'il y a une inquiétude qui est grandissante.
Le problème, c'est que les voyants sont allumés dans tous les secteurs, que ce soit
les voyants sont rouges.
L'éducation, logement.
Les crèches coûtent cher, il n'y a pas de place. Il faut payer.
Donc à un moment donné, quand on voit l'état de la France. Bon, après, moi, je ne veux pas faire celui qui tape en permanence sur nos politiques ou sur le gouvernement. Il faut aussi savoir se remettre en question en tant que citoyen, c'est ce que disait Philippe aussi. Et des deux côtés, on doit se remettre en question, tant du point de vue des gouvernants et des politiques, mais aussi des citoyens français dans leur globalité.
Non. Ben merci, en tout cas c'était très fructueux. Merci à vous. Merci à Jessica Longuer, conseillère donc sur la ville de Creil.
Au merci
plaisir.
À vous.
Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus. Au plaisir, à très vite.
Ok.
Ah bah oui.
Inch'Allah, comme dirait...
C'est ça, comme dirait l'autre.
Non.
Philippe Nadiboyaki, le conseiller régional, à très vite.
À très vite, et co-porte-parole nationale d'Écologie au Centre.
Exact, et le porte-parole, co-porte-parole de Écologie au Centre. Absolument, vous avez raison de le souligner. Merci à vous tous pour les informés des quartiers. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien, d'ailleurs. Bilan Edman, ça c'est les prochains rendez-vous avec Timesport de 20h à 21h. Vanessa à 21h jusqu'à 23h. Quant à moi, évidemment, les programmes continuent durant ce week-end. Merci à Solal à la réalisation. Quant à moi, quant aux informés, eh bien, rendez-vous dès lundi à 19h avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.